Ma dernière partie, c'était sur les directions d'entreprise. Et donc là, je vais aller très vite, mais pour dire juste que, en gros, un mot, c'était pour dire que, notamment en m'appuyant sur ce troisième ouvrage américain que j'avais parlé, la Working Law, les employeurs aussi mobilisent le droit. Hein, les employeurs réagissent aux lois, typiquement aux lois antidiscrimination, et ils interprètent le droit, ils le mettent en œuvre d'une manière telle que défend leurs propres intérêts. Hein, c'est ce que Laurine Edelman appelle une managérialisation du droit. C'est l'idée qu'on met le droit au service du management. Et donc, on va utiliser le droit antidiscriminatoire, plus tellement pour ne pas discriminer, mais pour recruter des gens issus de la diversité, issus des minorités, comme on dit. Hein, donc, on va transformer un droit négatif, en quelque sorte, hein, vous ne devez pas discriminer, en un droit positif, qui n'est pas un droit, en fait. Hein, mais en une action positive qui est, moi, je vais recruter des minorités différentes. Et ce processus de transformation de l'antidiscrimination à la diversity, bah, on le voit aussi en France. Ça s'est passé aussi en France, hein, où la manière dont aujourd'hui on met en avant beaucoup plus la question de la diversité aussi en France. Hein, Et ça s'est passé aussi dans d'autres domaines où, moi, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai étudié autour des 35 heures, où on passe de la réduction collective du temps de travail pour lutter contre le chômage à la flexibilité en faveur des entreprises et des salariés pour mieux concilier la vie familiale et professionnelle. Le dernier exemple, et le plus probant, je trouve, en ce moment, c'est comment on est passé de la question du stress et des risques psychosociaux, comme voilà, une menace que les entreprises devaient gérer, à la qualité de vie au travail, hein, dans lequel, les accords RPS, aujourd'hui, c'est des accords qualité de vie au travail, dans lequel on dit, bah, on va s'occuper de la qualité de la vie au travail, lutter contre les RPS, mais ça devient un sous-chapitre de l'accord sur la QVT, et on transforme un truc qui est menaçant pour l'entreprise en un truc positif, hein, de la lutte contre le stress et les RPS
QVT, à la qualité de vie au travail.
Qualité de vie au travail, voilà, la QVT, d'accord. Donc voilà, pour conclure, parce qu'en fait, je voulais surtout conclure là-dessus, mais voilà, ce qui me semble important de dire, c'est que aujourd'hui, il me semble que le droit fait l'objet les enjeux se déplacent fortement. Aux États-Unis, ils se déplacent vers une éradication du monde syndical. Je pense qu'on peut employer le terme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une offensive après celle des années 80 au moment de Reagan que j'ai évoqué. Il y a de nouveau une offensive depuis quelques années vers une éradication syndicale, une élimination des syndicats. Hein, il y a de plus en plus d'États qui ont développé ce qu'on appelle le Rights to Work Law. Il y a la décision aussi à Janus qui a été adoptée pendant que j'étais aux États-Unis il y a tout juste un an. Et c'est donc un tout petit mot là-dessus. L'idée, c'est qu'on va permettre aux salariés qui sont dans une entreprise syndicalisée de ne pas se syndiquer, ils ne vont plus être obligés d'être adhérents au syndicat. Hein, donc, et là, on a finalement une forme de rapprochement avec la France. Où, vous savez que les syndicats en France, quand ils font un accord, ils s'appliquent à tous les salariés, même ceux qui ne sont pas membres du syndicat. Aux États-Unis, vu que quand il y a un syndicat, tout le monde en était membre, ça s'appliquait à tout le monde. Mais aujourd'hui, les syndicats, quand ils vont signer des accords aux États-Unis, ça devra s'appliquer à tout le monde, mais il n'y a plus l'obligation de se syndiquer lorsqu'il y a un syndicat dans votre entreprise. Et c'est donc notamment ces États Right to Work Law. Et c'est aussi le cas.
C'est certains États.
C'est pas encore tous les États, mais il y en a de plus en plus. Hein. Ça se diffuse vraiment fortement. Et puis, la décision de Janus de l'année dernière, c'est uniquement pour l'instant dans le domaine du public, mais qui a abouti à cette décision de la Cour suprême américaine, en juin 2018, qui dit, dans le domaine des syndicats du public, on n'est plus obligé d'être syndiqué lorsqu'il y a un syndicat présent sur le lieu de travail. Donc, et ça, c'est fédéral. C'est une décision de la Cour suprême. Donc, dans le domaine de la fonction publique, du public, c'est plus État par État. Maintenant, c'est au niveau fédéral qu'il y a cette possibilité de ne plus être obligé de se syndiquer lorsqu'il y a un syndicat dans votre entreprise. Et là, ça rapproche complètement le système américain du système français, dans lequel domine cette logique de freerider. C'est-à-dire, il n'y a que quelques militants qui vont se battre et en prendre plein la tête, hein, parce que c'est bien montré en France aujourd'hui qu'il y a une discrimination syndicale importante. Hein, quand on est syndicaliste aujourd'hui, on a un mandat syndical, on a 10% de salaire, toutes choses égales par ailleurs au moins. ça a été vraiment bien
dans
montré
le privé, dans le privé.
Dans le privé. Et donc aujourd'hui, il y a quelques syndicalistes qui se battent pour tout le monde, donc avec le problème du passager clandestin. On n'est pas obligé de se syndiquer pour bénéficier des résultats de la lutte et de la négociation collective par les syndicalistes. Bah, cette logique-là, elle va s'étendre aussi aux États-Unis. Et puis du côté français, bah, juste un mot quand même sur les ordonnances Macron et la loi travail, qui non seulement inversent la hiérarchie des normes, mais transforment complètement le lieu de production du droit. C'est l'entreprise aujourd'hui, hein, c'est plus la branche
ou
l'État. Donc bah, c'est encore des règles de droit pour moi. Hein. Un accord collectif, un accord d'entreprise, c'est du droit. Parce que c'est ça qui va déterminer si vos heures sup, elles sont majorées à 5%, 10%, 25%, etc. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, on donne à l'entreprise la possibilité de d'établir le droit, de produire le droit, bah ça aussi, ça rapproche le système français du système américain. Donc, il me semble qu'il y a vraiment aujourd'hui des rapprochements forts entre système français et système américain. Et pour conclure définitivement, je voulais quand même un tout petit peu évoquer la question des luttes. Des luttes syndicales. Alors, il y a une faiblesse syndicale qui me semble vraiment très importante dans les deux pays. Les gilets jaunes, on peut regarder les gilets jaunes comme ayant deux faces. Hein. D'un côté, ça montre une faiblesse syndicale énorme, quoi, parce que c'est pas passé par les syndicats, avec une défiance syndicale même importante, en tout cas au début du mouvement. Ça porte pas sur, ça se passe pas sur les lieux de travail, ça se passe sur les ronds-points, ça se passe à
Paris. Mais tous les gilets jaunes n'étaient pas salariés.
Voilà, donc alors c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont pas effectivement des salariés. Et l'autre phase des gilets jaunes, c'est qu'il y a encore de la lutte sociale, il y a encore des mouvements sociaux importants. Et puis que finalement, quand on regarde le mouvement des gilets jaunes, il évolue aussi, hein, entre novembre et décembre, janvier en particulier. Il se gauchise en quelque sorte, il reprend quand même des thématiques plus proche des syndicats, hein, la question de l'augmentation des salaires, par exemple, c'était le deuxième truc dans les... Voilà, c'était pas que baisser les taxes, mais c'était devenu très vite aussi augmenter les salaires. Et du coup, ça veut dire qu'il y a aussi quand même des porosités entre le monde du travail et les gilets jaunes. La sociologie des gilets jaunes a aussi changé, je pense, entre novembre et voilà. Et puis, aux États-Unis, bah, on a aussi une polarisation extrêmement grande. Enfin, Trump, c'est à la fois un désastre, et puis en même temps... Ça nourrit une conflictualité sociale et une politisation, notamment de la jeunesse, très très importante, qui se place dans un contexte complètement hystérisé avec la manière dont Trump gouverne le pays. Mais bon, on va voir comment ça va se passer l'année prochaine aux élections américaines. Mais voilà, aujourd'hui, le candidat démocrate qui sortira, il devra quand même tenir compte de beaucoup plus que précédemment, je pense. De revendications beaucoup plus à gauche que ça pouvait l'être là auparavant. Donc je ne suis pas complètement pessimiste. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis très inquiet, moi, sur l'avenir du mouvement syndical dans ces deux pays, pour les raisons que j'ai dites. Et en même temps, sur les luttes sociales, ben, on peut quand même prendre acte du fait qu'il y a une continuité, voire un renouveau, une transformation qui n'est pas sans poser beaucoup de questions, mais en tout cas, une capacité de classe populaire, de personnes issues du monde salarié ou pas, mais laborieuses, en tout cas de gens qui travaillent, pas forcément encore une fois salariés, à se mobiliser et à obtenir des choses. Hein. Les gilets jaunes, ils ont quand même obtenu des choses.
Oui. Voilà. On a eu une discussion il y a peu de temps sur les gilets jaunes, sauf que nous, on l'avait vu au Célipof arriver quand même depuis 3 mois. Hein. En fait, effectivement, d'un côté, tu as raison, à partir de mars, il semble qu'il y ait un gauchissement du mouvement des Gilets jaunes. Et nous, on avait vu au Cevipof toutes les enquêtes, notamment qui existent les enquêtes préélectorales, que le Front National commençait à accaparer de plus en plus, de façon de plus en plus importante, l'électorat Gilets jaunes. Et effectivement, le résultat, c'est le sondage au sorti des urnes, 34% pour le Front National, 17% pour France Insoumise. 34% quand même.
Vraiment, c'est très polarisé les États-Unis, hein, en termes de vote, mais aussi en termes de législation en particulier, et notamment dans le domaine du travail. On a vraiment le Nord-Est, donc New York, le Massachusetts, d'un côté.
Chicago,
ça va jusqu'à Chicago, et le Michigan, même si le Michigan, c'est en train de changer aussi. Et puis de l'autre côté, on a vraiment la côte Ouest, Californie, Oregon, Washington, qui sont sur les trois. Et donc cet ensemble-là, il y a des formes, il y a des lois au niveau étatique. Ça ressemble assez à l'Europe, à la France, quoi, en fait, ces endroits-là, enfin, sur ce domaine-là. Par contre, tout le reste du pays, y a, les lois sont beaucoup moins protectrices dans le domaine. C'est là où il y a les right to work law qui se diffusent, etc. Donc, c'est vraiment un pays. Moi, j'ai découvert à quel point c'était un pays. Enfin, c'est 52 pays, quoi. Enfin, c'est très étonnant, en fait, de même la question de l'unité, en fait, américaine. Elle pose vraiment question, en fait, quand on va là-bas, parce que vraiment, les droits sociaux, par exemple, sont tout à fait différents. Le droit au chômage, le droit à des allocations, le droit. C'est vraiment très différent selon qu'on est d'un côté de la frontière, quoi. C'est si on est dans le Nevada ou si on est en Californie. Et bon, il y a quand même des frontières très longues, communes, hein, entre ces différents États. Donc on peut passer assez facilement de l'un à l'autre. Et selon là où on habite, quand même, vraiment, c'est. Donc moi, j'étais frappé par ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un syndicalisme qui est à la fois. Unifié dans le sens où, alors c'est moins le cas, mais il y a l'AFL-CIO qui était le grand syndicat américain, mais qui est un syndicat très institutionalisé pour le coup. Et ce qui s'est passé dans l'histoire syndicale américaine, c'est quand même que il y a eu des contestations de le mode de fonctionnement de ce syndicat, notamment dans les années 80-90 surtout, et qui jusqu'à aujourd'hui, mais surtout dans les années 2000, en fait, c'est là où ça a été le plus fort. Où notamment il y a des syndicats qui sont désaffiliés de la FLCIO, hein, donc notamment le SEIU, qui est le grand syndicat des services, puisqu'en fait les syndicats sont professionnels. Hein. Et donc je me suis rendu compte par exemple que, contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas forcément qu'un syndicat dans une entreprise. Parce qu'en fait il y a un syndicat qui défend les ouvriers, et puis il y a un syndicat qui défend les employés.
Syndicats de métier.
C'est des syndicats de métier, et du coup c'est pas les mêmes, quoi. Et
comme en Grande-Bretagne d'ailleurs.
Ils peuvent être, oui, tout à fait. Et ils peuvent être très différents, c'est-à-dire que politiquement, on peut avoir un syndicat qui est très réformiste, qui va chercher à négocier systématiquement, et puis un autre qui est, au contraire, très dans la lutte, beaucoup plus dans la même entreprise. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de pluralisme syndical aux États-Unis, oui, il n'y a pas CGT, FO, CFDT, qui sont concurrents sur les mêmes employés, d'accord, sur les mêmes salariés. Mais on peut avoir quand même des différences assez importantes, parce qu'il y a des métiers dans lesquels on est beaucoup plus politisé, ou beaucoup plus syndiqué, ou on est syndiqué d'une certaine manière que d'autres. Donc, du coup, il y a quand même une fragmentation, en fait. Hein, l'unité syndicale, elle n'est pas du tout évidente aux États-Unis, parce que, d'abord, c'est un syndicat d'entreprise, et pas tellement de branches. Alors, ça existe quand même. Il y a l'automobile, il y a quand même un syndicat de branches. Ouais, mais c'est d'abord des syndicats d'entreprise. Et du coup, la question de la logique de ce qui se passe dans une entreprise, c'est pas la même qu'ailleurs. Donc, voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des difficultés pour un mouvement syndical au niveau national, au niveau, pardon, fédéral, quoi.
Oui, c'est tout à fait vrai, bien sûr. Il y a un aspect peut-être là sur le rôle des avocats. Ils n'interviennent pas simplement, je dirais, bon, du côté des tribunaux. Ils interviennent aussi beaucoup en amont des accords collectifs qui sont signés dans les entreprises. C'est-à-dire, c'est une véritable armée d'avocats dont dispose le syndicat aux États-Unis. Nous, on a des individualités. Le seul qui a essayé de faire ça en France, enfin faire des... Il y a un avocat en particulier, Tchéno Grimbach,
oui.
Qui d'ailleurs a fait école, mais c'est quand même aujourd'hui. Bon, il a voulu faire une armée organique à la disposition des syndicats d'avocats. Bon, il s'est battu, c'est lui qui a fait toute la discrimination syndicale, c'est quand même lui, etc. Bon, mais évidemment, ça reste encore. L'héritage de Tchéno est assez faible, hein, disons-le clairement. Alors qu'aux États-Unis, c'est endémique, si je peux dire, au système américain, ce qui fait que les avocats. Ils constituent une armée qui sont presque affiliés au point de vue revenu au syndicat et qui sont énormément consultés par les syndicats en amont des accords. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est quand même très très important parce que ça peut...
Là par exemple en France, il y a des avocats aussi qui travaillent des syndicalistes.
Mais individuellement.
Mais c'est individuellement puis c'est souvent après l'accord. C'est lorsqu'on veut dénoncer l'accord ou qu'il est mal appliqué ou qu'on conteste l'accord parce qu'il a été signé par un autre syndicat et que la CGT l'a pas signé, elle va faire appel à un avocat pour essayer de dégommer l'accord. Mais par contre, il conseille jamais en amont les organisations syndicales. C'est impressionnant, ça. Au moment des 35 heures, je l'avais vraiment vu, ça.
Alors qu'aux États-Unis, ça existe. Avec alors parfois des pratiques tout à fait aberrantes. Hein, je veux dire, tu venais de parler là, du syndicat de l'UAW, le syndicat des travailleurs d'automobile. Chez Chrysler, par exemple, quand Chrysler avait décidé, il y a 30 ans, on parle aujourd'hui de l'actualité industrielle en France, il y a 30 ans, ils avaient décidé de faire l'emploi à vie. qu'il y avait, je pense que c'était Toyota ou quoi, qui avait fait ça au Japon. Alors l'emploi à vise avait signé un accord avec les syndicats, mais attention, les syndicats de Chrysler, bon, Chrysler avait dit, nous, on veut bien vous garantir à vie l'emploi, à condition qu'effectivement, on puisse le faire. Et pour le faire, il faut baisser le coût de tous nos sous-traitants. Et les syndicats de Chrysler, ont signé un accord qui allait totalement à l'encontre des intérêts des ouvriers, des sous-traitants. Grosso modo, c'est la pression salariale énorme, une flexibilité sur le temps de travail énorme, et ça, on le fait très allègrement. Et c'est encore plus drôle, parce que normalement, les syndicats de Chrysler, ça, Kesselmann, par exemple, c'est très bien, Marianne de Bouzy n'est pas là ce soir, mais c'est dommage, parce que là-dessus, elle est beaucoup plus compétente que moi. Bon, c'est une tradition de gauche, encore, y compris aujourd'hui. Bon, démocrate, mais démocrate... voilà. Et donc, c'est quand même un univers extrêmement différent, quoi. En France, on a du mal à imaginer qu'un syndicat signe des accords demandant une pression salariale conséquente sur des ouvriers sous-traitants. Mmh. Enfin, là-bas, ils défendent leur beefsteak.
C'est comme ça. Une petite question,
oui.
Par rapport à ce que vous avez dit sur la volonté d'éradication des syndicats, et du coup aussi le fait que l'on voit la difficulté de protéger les salariés aux États-Unis avec la flexibilité du travail, les contrats, etc., y a-t-il d'autres organisations qui permettent la protection des salariés aux États-Unis? Et dans quelle mesure maintenant on peut parler de protection des droits des salariés?
Alors, ouais, c'est important votre question parce que pour dire aussi ce qui s'est passé au tournant des années 2000, hein, où il y a vraiment une forme de revitalisation syndicale en fait. Et elle est beaucoup passée justement un peu hors de ces structures traditionnelles, AFL-CIO, etc., via notamment des formes de mouvements sociaux qui aujourd'hui dépassent très souvent l'entreprise pour s'appuyer sur les communautés. Donc le community, hein, c'est pas communautaire au sens français du terme, mais community, donc community based, et donc c'est donc les communautés, ça va être le quartier, ça va être les communautés immigrées ou ethniques aussi, hein, voilà, les chicanos comme on dit, voilà, donc mais aussi des communautés qui peuvent être organisées par d'autres registres. Et notamment ces organisations que j'évoquais, là, le LOP, par exemple, qui était financé beaucoup par les syndicats, Berkeley, etc., bah, c'est typiquement des associations qui s'appuient beaucoup aussi sur des logiques communautaires, de soutien, de solidarité, très locales, et qui dépassent très souvent le lieu de travail. Et elles peuvent être très efficaces. Hein. Il y a le, je sais pas s'il y a un film de Ken Loach, la Rosenbrod. Bread and Roses, je ne sais plus, qui montre ça, en fait. C'est un film qui montrait comment il y avait justement un... Bah, c'était quelqu'un des SAU, là, ce syndicat des services un peu radical qui s'était désaffilié de la FLCIO. Donc un militant à plein temps qui allait d'entreprise en entreprise pour essayer d'organiser les femmes de ménage des grands hôtels de Californie ou de Las Vegas. Dans mon souvenir, je crois que c'était à Las Vegas. Et du coup, ce militant... il organise des réunions, mais qui ne sont pas sur les lieux de travail. Il n'a pas le droit de rentrer. Et qui s'appuie beaucoup sur des bases communautaires. Donc, c'est les femmes. C'est les femmes mexicaines qui travaillent, ou les femmes noires qui travaillent dans ces hôtels-là. Et il y a toutes ces logiques-là qui créent des formes de solidarité très grandes, qui dépassent souvent l'entreprise, mais qui parviennent à obtenir des choses localement, parfois vraiment intéressantes. Hein. Et la revitalisation vraiment du syndicalisme américain au tournant des années 2000, c'est vraiment par là que ça passe. Le problème, c'est qu'ils ont toujours, ils ont souvent du mal à généraliser les choses. C'est souvent provisoire aussi, parce que dans le temps, bah, il faut durer, parce qu'on a des employeurs qui, en face, mettent les moyens pour éradiquer le syndicat de l'entreprise. Hein, pour, voilà, parce que je crois qu'il y a des règles du genre, tous les 5 ans, on peut redemander un référendum pour savoir si on garde le syndicat ou pas. Et puis là, on fait une campagne hyper agressive en expliquant tout ce que vous allez perdre si jamais vous gardez le syndicat, etc. On vire les 2-3 meneurs. Donc il y a vraiment des tactiques comme ça très, très, très éprouvées aujourd'hui qui limitent un peu la portée et surtout la généralisation de ce processus. Mais il est vraiment réel. Il y a une vraie vitalité au niveau local. Moi, je l'ai vu, alors encore une fois, à Berkeley, San Francisco, c'est quand même des lieux très, très spéciaux, hein, aux États-Unis. C'est pas... voilà, c'est New York, c'est pas les États-Unis. Et San Francisco, c'est un bout d'États-Unis un peu spécial quand même. Mais moi, j'étais frappé par la vitalité de ces mouvements-là. On voit plein de trucs, il y a plein d'affiches dans les rues, il y a des réunions qui se tiennent, on voit des choses, quoi, il se passe des choses, hein, dans ces lieux-là, quoi. Mais encore une fois, la difficulté, c'est la généralisation, quoi. Comment on passe de ces mouvements locaux qui peuvent arracher des choses, hein, mais on a obtenu le $15 à San Francisco. mais on traverse la baie, on va dans la ville d'en face, il n'y a pas les 15 dollars, quoi. Et du coup, c'est très étonnant aussi, cette disparité très grande entre États, entre villes, sur les droits sociaux. Le salaire minimum, est-ce qu'il y a une allocation chômage, quand on a un accident du travail, est-ce qu'on est pris en charge, une indemnité qui est très ridicule ou au contraire correcte. C'est vraiment très étonnant, ces disparités-là très grandes. Et de fait, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses qui se négocient au moment du contrat de travail, dans ce qu'on appelle les bénéfices, hein, qui sont associés au contrat de travail avec l'assurance santé. Vous savez qu'aujourd'hui, un des gros problèmes, alors Obama a fait progresser beaucoup les choses là-dessus, mais quand même, quand votre employeur vous paye l'assurance santé, ça change tout, en fait, dans les droits sociaux. Et du coup, c'est un des combats aussi beaucoup qui passe par là.
Du coup, c'est pas compliqué pour le président, par exemple, dans le cas des États-Unis, pour Donald Trump, pour mettre en place des politiques économiques, pour devoir travailler toutes les disparités qu'il y a dans les différents États par rapport aux droits du travail. Du coup, c'est pas compliqué un peu de devoir.
Oui, enfin, on peut se dire que du coup, ça limite un peu son action, ce qui est peut-être pas si mal en fait, enfin, dans sa capacité à détruire tout un tas de choses.
Il n'y a pas de politique industrielle aux États-Unis par définition.
Ouais, non.
Il n'y a jamais Roosevelt l'a fait, mais dans un contexte très particulier, avec la crise des années 30. Mais après-guerre, ça.
Voilà, et puis c'est le Congrès a un rôle très important dans l'édiction des lois, etc. Mais les 15 dollars de l'heure, par exemple, tous les candidats démocrates leur prennent aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si Joe Biden, je suis pas sûr, c'est peut-être le seul où j'ai un doute. Tous les autres, ils disent aujourd'hui, le 15 dollars de l'heure, on va le mettre au niveau fédéral. Ce qui changerait quand même un peu les choses, hein.